Syllabe, la radio sauvage.
Faut juste oser, en fait, et poser aussi les bonnes questions.
Création, émission, fiction.
Les ateliers de radio Syllabe dès 10h le samedi.
C'est pour ça que j'aime bien la radio.
Vous êtes à l'écoute de Radio Syllabe sur le 88.4 FM. Nous sommes aujourd'hui au Diapason, sur le campus de Beaulieu, à l'Université Rennes 1, pour un atelier sur le thème « Femmes et sciences » ou plutôt « Femmes en sciences ». Et je ne suis pas seule aujourd'hui au Diapason et je vais donc commencer par te laisser te présenter déjà, Bruno.
Oui, bonjour à tous. Bruno, donc je suis enseignant-chercheur à l'Institut d'électronique et technologie du numérique, qui est une unité CNRS de 400 personnes et qui est multisite sur ce campus, mais aussi dans certaines écoles du campus, ESIR, INSA, ENS et Centrale Supélec. Voilà.
Et qu'est-ce que tu y enseignes alors ?
Donc j'enseigne, je donne des cours en physique et mathématiques. Et nos activités de recherche portent sur l'optoélectronique, le développement de senseurs, de nouvelles technologies basées sur les sciences de l'électromagnétisme. Voilà.
Merci. Marie-Françoise ?
Oui, donc moi je suis Marie-Françoise, je suis professeure émérite en mathématiques. Ça signifie que je continue mes activités de recherche mathématique tout en ne voyant plus d'étudiants. Donc officiellement à la retraite et de fait avec un bureau et puis des activités de recherche qui se traduisent par des voyages à l'étranger, des conférences et aussi l'accueil de personnes avec lesquelles je travaille souvent à l'étranger, donc aux États-Unis, en Argentine et beaucoup aussi en Afrique, au Sénégal et au Niger.
Et je crois que tes activités ne se limitent pas aussi au champ universitaire. Tu as plein d'autres occupations par ailleurs.
Oui, alors j'ai une vie associative assez intense qui se traduit par des activités justement liées à l'Afrique. Je suis présidente d'une association d'échanges culturels entre l'Ille-et-Vilaine et le Niger. Je suis aussi membre de la section de Rennes, des Pays de Rennes, ça s'appelle section des Pays de Rennes de la Ligue des droits de l'homme. Et par ailleurs, sur le thème femmes en sciences, j'ai aussi beaucoup d'activités qui se traduisent par l'adhésion à des associations comme Femmes et mathématiques, Femmes et sciences, au niveau européen, European Women in Mathematics et autres. Voilà. Et je reviens au Diapason aujourd'hui, peut-être pour la première fois depuis le 19 mars. Journée pendant laquelle j'avais organisé avec plusieurs autres personnes donc une journée sur les sciences et l'égalité avec la place des femmes dans ce contexte.
Et je crois par ailleurs, Bruno, que tu as participé en tant que participant à cette journée. Est-ce que tu peux nous raconter à quelle rencontre tu as participé ?
Oui, tout à fait. C'était sur une journée complète et il y a eu plusieurs interventions de dames qui font partie de nos collègues scientifiques sur différents aspects, hein, sur l'historique aussi des femmes en sciences et en particulier une intervention apportée sur la volonté de faire figurer un certain nombre de dames scientifiques, environ 70, sur le deuxième étage de la Tour Eiffel. Comme on a pu en parler dans les médias dernièrement. En effet, à l'époque, à cause de Eiffel, les noms étaient exclusivement masculins sur le premier étage. Donc assez naturellement est prévu l'écriture, le dépôt de différentes personnalités féminines en sciences de très haut niveau qui ont été choisies selon certains critères par une commission et qui sera mis en place très bientôt ces prochains mois, je le pense. Et ça a permis de s'exprimer, d'essayer de faire avancer comment tenter d'obtenir dans certains disciplinaires la parité Elle est obtenue dans certains domaines, mais elle n'y est pas dans d'autres. Dans d'autres domaines scientifiques, on a du mal à l'obtenir. Et on se rend compte sans doute qu'il faut intervenir dès le plus jeune âge, bien avant le lycée, même comme on le fait au niveau des collèges, pour tenter de donner l'espoir et faire comprendre aux jeunes filles, pas uniquement les jeunes garçons, que les carrières scientifiques, les métiers scientifiques sont intéressants pour la sociabilité, la place dans la société, le travail et les enjeux, les prochains enjeux de société, technologiques, environnementaux, énergétiques, etc.
Juste pour compléter par rapport à la journée, je voulais insister aussi sur le fait que pour nous, la science, ce n'était pas uniquement les sciences forcément du campus de Beaulieu. Donc en particulier, il y avait une historienne qui a parlé de l'Université Rennes 2, qui a parlé donc de tous les stéréotypes concernant les Bretonnes, où souvent on considère que pendant la Révolution française, les Bretonnes étaient extrêmement réactionnaires. Elles étaient toutes derrière les curés réfractaires et opposées à la Révolution, alors qu'en réalité, on a un tableau beaucoup plus contrasté quand on étudie en détail. Et elle a insisté aussi sur le fait que ça avait bloqué ces stéréotypes, en particulier sur les Bretonnes, ont pas mal bloqué l'évolution du droit des femmes en France, parce que la gauche, une partie de la gauche du moins, avait peur que si on donnait le droit de vote aux femmes, elles se mettent à voter de façon systématique à droite. Et donc, une partie de la gauche était opposée au droit des femmes. C'était aussi très intéressant parce que ça montre aussi que les sciences humaines peuvent aider à déconstruire certains stéréotypes. Et ces stéréotypes peuvent après avoir une influence sur les femmes pendant de longues périodes historiques. Donc voilà. Bon, après, il y avait d'autres. Il y a eu plusieurs exposés, il y a eu 6 exposés en tout, je pense, dans la journée. Mais voilà, par exemple, pour donner 2 exemples d'exposés. Puis effectivement, comme le disait Bruno, il y a une partie aussi où les gens se présentent, ils expliquent leur motivation. Et puis en fin de journée, on a aussi le conseil scientifique qui est formé en majorité de doctorants et de doctorantes qui présentent ses motivations pour avoir participé à la journée, et on en profite aussi, on fait de longues pauses pour que les gens aient l'occasion de discuter entre eux. Et on avait aussi une librairie qui est venue, donc on pouvait aussi acheter des livres. Donc c'est une journée très, très riche et qu'on organise à peu près depuis déjà 5-6 ans avec ma collègue Nicoletta Tchou. On est à l'origine de cette journée qui a lieu tous les ans à peu près dans la même période, autour du 8 mars, quoi.
Pour la prochaine édition, donc l'édition à venir en mars 2027, comment on fait pour avoir les informations, comment on fait pour suivre un peu l'actualité de cette journée?
Oui, alors en fait déjà il y a un appel au peuple, entre guillemets, pour les doctorantes et les doctorants. Donc c'est le collège doctoral de Bretagne, donc c'est pas spécialement sur Rennes, hein, ça peut être sur toute la Bretagne, qui fait un appel à candidature, donc c'est en général au mois de novembre. Et après, on regarde combien de personnes sont candidates, aussi bien des femmes que des hommes, évidemment. Et puis, bon, la plupart du temps, ça s'équilibre à peu près. On voit les gens qui sont très motivés, ça suffit pour faire un comité scientifique. Le comité scientifique, ensuite, définit des thèmes de la journée en essayant de ne pas se répéter. On ne va pas reparler de la Tour Eiffel, par exemple. On ne va pas reparler des Bretonnes, on va sûrement prendre des thèmes différents. Et c'est une discussion que les gens ont entre eux. Après, en particulier, doctorantes et doctorants du comité scientifique vont contacter les différentes intervenantes qu'on aimerait faire intervenir. Intervenants ou intervenantes, d'ailleurs, si c'est un thème sur les femmes scientifiques, ça peut très bien être un homme qui intervient. Et puis après, on organise la journée. Il y a toute une partie logistique qui a lieu grâce à Johanna Robic, qui est la responsable, la chef de la communication sur ces thèmes d'égalité au niveau de l'université de Rennes. Et le Diapason nous accueille aussi, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de s'occuper des côtés techniques. L'équipe du Diapason est là aussi pour capter la journée, pour faire le montage vidéo, etc. quoi. Donc le comité scientifique s'occupe d'organiser, disons, la partie scientifique, qui vient, pour quel sujet, et après, on a toute une logistique derrière qui nous aide.
et pour découvrir le programme l'année prochaine et rester au fait un peu des actualités. Rendez-vous sur le site du Diapason.
Rendez-vous sur le site du Diapason et sur le site de l'Université de Rennes. Et puis, c'est diffusé quand même aussi sur Info Local. Suivant les années, on peut aussi faire partie de la campagne de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, parce qu'ils font une campagne autour de l'égalité des droits femmes-hommes au mois de mars. Donc, on peut très bien faire partie aussi de leur programmation. Et puis, effectivement, c'est surtout... je pense quand même qu'on peut dire que le public, c'est quand même surtout les doctorantes et les doctorants, quoi. Avec une partie hybride, comme ce n'est pas quelque chose qui est seulement sur Rennes, il y a à peu près la moitié des gens qui assistent à la journée à distance. Tout est gratuit, on peut plus préciser.
Et en parlant d'événements, justement, je crois qu'hier était une journée toute particulière pour les mathématiciens et mathématiciennes. Est-ce que, Marie-Françoise, tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette date du 12 mai ?
Alors, le 12 mai, effectivement, donc, toute la communauté mathématique mondiale célèbre les femmes mathématiciennes. Donc, il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu assez peu de femmes mathématiciennes reconnues au plus haut niveau. Et une d'entre elles s'appelle Maria Mirzakhani. Il y a d'ailleurs un amphithéâtre à son nom dans le campus de Beaulieu. Et elle a été la première femme à obtenir la médaille Fields en 2014 seulement. Donc, la médaille Fields, c'est un peu, on dit toujours, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Ça existe depuis les années 30 et il y en avait eu une soixantaine qui avait été décernée, jamais à des femmes. Et donc Maria Mirzakhani était la première à obtenir cette médaille Fields, mais de façon très tragique. Elle est morte prématurément, avant l'âge de 40 ans. Et en 2017, elle est décédée en 2017. Si bien que toutes les femmes mathématiciennes, et pas seulement, beaucoup de monde, aussi beaucoup de monde en Iran, parce qu'elle était extrêmement aussi admirée et importante dans son pays d'origine, étaient extrêmement tristes de son décès. Mais il y a eu une initiative pour transformer cette tristesse en énergie. Et quand on s'est réunis en 2018... au nouveau congrès suivant, le congrès international des mathématiciens qui a eu lieu en 2018 à Rio, il y avait des femmes iraniennes qui sont venues proposer que le 12 mai devienne une célébration des femmes mathématiciennes en l'honneur de la date de naissance de Maria Mirzakhani. Ce qui donc s'est fait depuis 2019. Et donc, tous les ans, il y a une période de l'année où il y a différents événements dans le monde entier qui servent à célébrer les femmes mathématiciennes.
Et cette année alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Cette année, la même chose, bien sûr, avec quand même une difficulté, comme vous pouvez l'imaginer, pour les Iraniennes, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pratiquement plus de liaison Internet entre l'Iran et le reste du monde. Donc, il y avait beaucoup d'événements organisés en Iran, jusqu'à 10 l'an dernier, et cette année, pour l'instant, on n'est au courant que de deux événements, mais ça ne veut pas dire que les Iraniennes et les Iraniens aient renoncé à cette date. Ça veut dire que pour eux, c'est extrêmement difficile d'organiser quelque chose et surtout de le déclarer sur Internet. Bon, à part ce triste côté concernant l'Iran, c'est très actif. Donc, il y a plus de 150 événements qui ont lieu dans plus de 50 pays. Et en particulier, justement, lié à la Tour Eiffel dont on parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'appelle Sophie Germain, c'est une mathématicienne française qui était née exactement il y a 250 ans, c'est-à-dire en 1776. Et donc, elle va faire partie des personnes dont le nom va apparaître enfin sur la Tour Eiffel, puisque elle avait été oubliée par Gustave Eiffel, qui n'avait pas voulu à l'époque mettre son nom sur la Tour Eiffel. Donc, il y a eu un film, petit film, qui a été fait sur Sophie Germain à cette occasion. Et il était en français et on s'est dit que ce serait bien qu'il soit traduit, qu'il y ait des sous-titres qui permettent de le voir dans d'autres langues. Donc les femmes mathématiciennes ont fait un appel au peuple pour demander des volontaires pour traduire ces sous-titres. Et on pensait qu'on aurait peut-être des traductions en 5 ou 6 langues différentes. On a eu des traductions dans 18 langues. des langues d'Afrique aussi, comme le Wolof ou le Haoussa, des langues d'Asie, comme le Singhalais, le Thaï, le Népalais, en plus de toutes les grandes langues auxquelles on pense, qui sont les langues officielles de l'ONU. Donc ça montre aussi que quand on a un réseau solidaire, on arrive à faire des grandes choses, en plus, je précise, sans le moindre budget. Donc il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cette initiative du 12 mai et des événements partout. Ça n'a pas lieu seulement le 12 mai, hein, c'est entre le 1er mai et le 15 juin, en fait, qu'on peut organiser des événements autour de cette célébration des femmes mathématiciennes.
Et est-ce qu'il y a des événements à venir, justement, dans ce grand créneau? Là, le 12 mai est dépassé, mais le 15 juin est encore loin.
Ben, par exemple, actuellement, il y a une... Pour ceux qui se rendent ou celles qui peuvent se rendre à Paris, il y a l'Institut Henri Poincaré, donc dans le quartier latin, une grande exposition sur Sophie Germain. Je pense qu'après, elle va se déplacer dans d'autres villes et certainement qu'on va la faire venir à Rennes. Enfin, il faut regarder. En fait, on a sur le site web du 12 mai, qui s'appelle May 12. Je pense qu'on peut mettre des noms de sites après pour l'émission, c'est ça. Donc, on peut aller voir tout ce qui existe dans tous les pays. C'est très, très instructif de voir comment les femmes mathématiciennes se mobilisent à travers le monde.
Et je crois tu avais également une actualité à nous partager, Bruno, concernant notamment le projet Brio.
Oui, je vais en parler. Pour rebondir sur ce qu'a dit Marie-Françoise, ces pays comme l'Iran ou même certains pays même de l'Europe de l'Est ou autres, ces dames brillantes qui présentent l'excellence en maths, elles ont souvent été détectées par des programmes comme des Olympiades. Elle pourra développer mathématiques.
Qu'est-ce que c'est des Olympiades?
C'est-à-dire que ces pays organisent des concours de mathématiques pour tenter de détecter des jeunes. Et cette Myriam, cette grande dame, a été détectée par ce concours organisé dans le pays. Mais donc les écoles de mathématiques sont très puissantes dans de nombreux pays, avec une recherche d'excellence, et ils organisent des concours sur les jeunes. Ça s'appelle des Olympiades. Il peut y avoir une présélection, que ce soit dans le lycée ou autre, mais c'est le but, en fait, de les détecter. Ben, par exemple, l'actuel président roumain, qui s'appelle Nicu Zordan, est un mathématicien. Ça a été le premier administrateur sur Bucarest, de l'ENS, qui a été monté en partenariat avec l'ENS à Paris. Et c'est le président roumain de l'État. Actuellement, ils ont un mathématicien. Et il avait fini premier... à ce type de concours jeune quand il a été détecté. Donc en fin de compte, quand on s'intéresse à différents pays comme le fait Marie-Françoise, c'est une communauté, nos collègues mathématiciens qui sont très actifs, qui ont beaucoup de liens. Et c'est important de le mentionner sur l'égalité aussi des chances. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays de la planète qui ont mis en place ces Olympiades et qui offrent, j'aurais d'autres exemples à donner, des gens de l'Europe de l'Est, qui sont venus après, qui ont immigré dans d'autres pays plus à l'ouest, la France et l'Allemagne, dont des collègues roumains, et qui avaient été détectés, qui ont eu des bourses d'excellence et autres. Et qui sont d'ailleurs au CNRS en France, dans tel ou tel domaine. Ça, c'est important de le rappeler au niveau même de l'Europe.
Oui, on peut encore citer une personne célèbre qui a fait des études de mathématiques, c'est le pape actuel, Léon XV. Hein. Si bien d'ailleurs que quand on a su qu'il était mathématicien, j'ai dit que la seule chose qu'on pouvait lui reprocher, parce qu'il avait tout un tas de caractéristiques, il avait une famille multiculturelle, il avait il a même du sang indien, je crois, dans les veines. Enfin, il cachait toutes les cases, sauf que c'était pas une femme. Mais bon, nobody is perfect.
D'accord. Oui, donc le programme, alors. Ah oui, effectivement, alors l'université, et puis même notre institut, l'Institut d'électronique et technologie du numérique, agit sur différents programmes. En particulier, le programme Brio, Bretagne Réussite Information et Orientation, qui avait été développé, qui est développé, parce que c'est une durée de 10 ans, par Cécile Lecomte, qui était notre vice-présidente et qui est actuellement au niveau du rectorat. Et le but de ce programme, c'était justement de faire des liens entre les trois années lycée, en général, et les trois années de licence, avec toute une série d'échanges, d'immersions, de présentations, dans un sens et dans l'autre. Donc on a des référents collègues à l'université et des référents dans ces lycées. Il y a aussi des programmes de type CMA, Compétences et Métiers d'Avenir, au sein de notre institut, l'IETR CNRS, qui est pour faire valoir ces activités scientifiques à électronique, technologie du numérique, parce qu'il y a un grand plan France 2030 sur ce disciplinaire-là. Et bien évidemment, c'est l'objet de de notre discussion aujourd'hui. À travers toute cette science, on a toujours en mémoire d'obtenir cette parité qui n'est pas toujours atteinte dans notre disciplinaire. Donc pour en revenir à ces programmes, que ce soit Brio, Compétences, les CMA, Métiers d'Avenir, ben, on s'est rendu compte que non seulement de par votre réforme de lycée qui fait un choix de spécialité assez tôt, dès la seconde, les jeunes français-françaises doivent choisir des spécialités pour les appliquer en première terminale et un peu fixer déjà une voie, scientifique ou non, on s'est rendu compte qu'on passe déjà dans toute la région. Il est nécessaire de passer dans toute la région au niveau des collèges, dans vos quatre départements bretons, dans les quatre départements bretons, de manière à parler des sciences et montrer à toutes ces jeunes filles, ces jeunes collégiennes, pas uniquement les collégiens, que les carrières scientifiques existent en électronique, en électromagnétisme, en technologie du numérique, en traitement du signal, en traitement d'image, en intelligence artificielle, en informatique et autres. Et que c'est très important qu'elles puissent imaginer travailler dans nos champs et devenir nos collègues le jour où on partira, ou aussi quand on partira en retraite. Donc ça, c'est nécessaire. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces programmes transverses pour développer les activités et présenter les métiers de la science, on a toujours en mémoire le sens nécessaire d'obtenir cette parité homme-femme dans nos métiers et qu'il y ait autant d'ingénieurs aussi dans nos hautes technologies, d'ingénieurs E que d'ingénieurs sans E. Ceci est très important. Donc on acte, on tente d'agir sur ces choses-là en passant dans les collèges et en présentant nos métiers, ce que l'on fait et comment y accéder. L'information et l'orientation est cruciale, je le pense, à tous les niveaux. Pas rien que les villes, mais aussi les territoires un peu plus reculés, dira-t-on. Voilà.
Est-ce que, Marie-Françoise, tu es d'accord que l'information et l'orientation est cruciale pour faire évoluer justement cette place des femmes dans certaines disciplines scientifiques notamment, plus concernées encore que d'autres ?
Oui. C'est vrai que on se rend compte à quel point c'est pas facile non plus, parce que, par exemple, je suis parmi celles qui sont à l'origine de l'association Femmes Mathématiques, qui va, en fait, ça fait partie des événements aussi qui arrivent, fêter ses 40 ans cette année. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'on a eu une évolution très, très faible du nombre des femmes mathématiciennes, parce que, quand même, les mathématiques, c'est. Les mathématiques au lycée, je dirais, c'est quand même une base après pour faire des sciences, pour faire de l'informatique, pour faire de la physique, etc. Donc c'est vraiment une discipline qui reste un peu centrale pour les sciences. Et on s'est rendu compte, en particulier, effectivement, la réforme du lycée de Blanquer a été particulièrement catastrophique. Et on a constaté, alors qu'il y avait eu quelques progrès dans les années précédentes, on a constaté que le nombre de filles s'effondrait de nouveau, et on entend dire aussi que dès le CP, il y a des différences entre les résultats des filles et des garçons en mathématiques. Donc on peut dire que c'est quelquefois un peu désespérant de se dire on a fondé cette association il y a 40 ans et on en est encore là, mais bon, c'est ça la réalité aussi, donc il faut absolument l'accepter et vivre avec. Donc je pense aussi que toutes les activités qui concernent donc les enfants, mais aussi quelquefois les parents, les enseignantes et les enseignants, qui n'ont pas forcément été formés, qui ont des biais dont ils ne se rendent pas compte. Et puis, bon, il faut se souvenir aussi d'où on vient, de l'histoire. Hein. On parlait de Sophie Germain tout à l'heure. Il y a 250 ans, elle n'avait pas le droit d'aller étudier. Elle devait se cacher sous le nom d'un garçon. Quand elle a eu un prix à l'Académie des sciences, elle n'a pas eu le droit d'entrer à l'Académie parce que les femmes étaient exclues, évidemment. C'est vieux, mais ça veut quand même dire qu'il y a eu un moment où il y avait une discrimination complète des femmes dans le domaine, et il en reste certainement quelque chose un petit peu dans l'imaginaire, dans l'idée qu'on se fait. Et c'est pour ça aussi que si on change ce genre de représentation, si on met des noms de femmes sur la Tour Eiffel comme scientifiques, petit à petit... Les esprits vont évoluer. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose pour lequel on a des solutions faciles. Donc, d'où l'importance de ces initiatives comme l'année de l'ingénierie, dont nous parlait aussi Bruno, et de tout ce qu'on fait pour qu'il y ait des exemples de femmes scientifiques et pour petit à petit changer les mentalités. Mais franchement, c'est pas quelque chose qui est à court terme, voilà. Mais c'est pas une raison pour se décourager. Hein. On dit toujours, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel on peut dire que c'est important, effectivement. Donc c'est important que ça soit porté par les femmes scientifiques, mais aussi par leurs collègues hommes. Et donc c'est un plaisir de voir que c'est ce que font Bruno et ses collègues en allant rencontrer les collégiens et collégiennes et les jeunes.
Oui, tout à fait. Merci Marie-Françoise. Et effectivement, cette année, 2026, c'est très bien de l'avoir mentionné, c'est l'année de l'ingénierie au niveau de tout le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique en France. Donc sur tout le territoire de l'État français est organisé cette année, avec la mention année ingénierie, des événements, des discussions avec l'ensemble des personnes, collèges, lycées, tout type de salles, tout type d'initiatives est la bienvenue. Voilà.
Tu nous disais également tu nous as dit ça quand on préparait l'émission, que le fait d'être père aussi de deux filles, ça a contribué à aussi... éveiller ton regard sur ces questions.
Oui, ces choses-là sont un peu plus privées, mais effectivement, j'ai trois enfants, dont deux filles. Et oui, tout au long de leur formation en France, le passage au collège, le lycée, ben, on ressent des choses, elles nous parlent de certaines choses. Effectivement, elles ne sont pas allées dans mon disciplinaire. Je les ai toujours laissées libres, hein, bien sûr, de leur choix. Mais une des deux a fait de la mathématique. Mais j'ai ressenti qu'il n'y avait pas une vision complète des sciences qui était arrivée jusqu'à eux, étrangement. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire... à passer dans les collèges, peut-être même avant, peut-être au niveau de l'école, dès le plus jeune âge, pour bien faire comprendre qu'il ne faut pas imaginer les métiers genrés du tout, il faut vraiment, et surtout la science, il faut vraiment leur faire comprendre qu'il y a un gros potentiel dans ce domaine-là, et que l'orientation et l'information peuvent permettre d'accéder à ces choses-là, avec une vraie égalité des chances. Voilà l'objectif.
On approche de la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez ajouter avant de terminer justement cette émission, Marie-Françoise ?
Oui, bah j'espère ne pas avoir été trop plombante avec cette idée que depuis quelques décennies, les choses n'évoluent pas toujours dans le bon sens. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut voir au niveau de toute la société. Je pense qu'il faut continuer à lutter, il faut continuer le combat pour l'égalité dans tous les domaines, et aussi contre toutes les formes de discrimination. Donc les discriminations contre les femmes, c'est un exemple de telle discrimination. Mais on sait très bien aussi que l'accès aux sciences, c'est pas seulement pour les femmes que c'est plus difficile, c'est aussi le cas pour certains milieux sociaux, pour des gens aussi peut-être originaires à la base d'autres pays qui n'ont pas les mêmes chances de réussir dans le système scolaire. Donc, je pense que toutes ces luttes se rejoignent et que il faut rester très très persévérant et mobilisé, tout en évidemment dans la bonne humeur et en créant des événements conviviaux pour que les choses avancent.
Et toi alors ?
Et moi, c'est juste pour vous remercier, C-Labs, de nous avoir accueillis, 88.4, pour nous permettre de nous exprimer et puis d'highlighter, de donner un peu un regard sur notre joli campus Beaulieu scientifique et son université. Merci à vous.
Et on vous rappelle qu'effectivement, la radio C-Lab est une radio associative avec beaucoup de bénévoles impliqués tout au long de l'année dans son fonctionnement. Donc on vous invite, si vous êtes intéressé pour faire de la radio, on vous invite en tout cas à nous retrouver dans le bâtiment RF, à franchir la porte de nos locaux et à venir nous rencontrer. C'était donc une émission enregistrée depuis le diapason sur le thème femmes en sciences avec Marie-Françoise et Bruno, Carla Georges également à l'animation de cette émission, et je vous souhaite une agréable fin de journée.
C-Lab, la radio sauvage.
Le samedi.
Nous, on a beaucoup aimé préparer cette émission pour vous.
Les ateliers de radio C-Lab dès 10h le samedi.
J'ai entendu ta voix dans la radio.
On remercie la radio C-Lab pour les ateliers.